Les éditions Hervé Chopin présentent Dans l'ombre de Cézanne, La résistance à Château-Noir, de Thierry Maugenet, lu par Stéphanie Moussu. L'épilogue et les remerciements sont lus par l'auteur. Avant-propos. Au cœur du massif situé entre Aix-en-Provence et l'assise de Sainte-Victoire, se trouve le domaine très secret de Château-Noir, sur lequel, depuis le XIXe siècle, planent toutes sortes de légendes. Envoûté depuis l'enfance par ce lieu, Paul Cézanne y a travaillé durant les 15 dernières années de sa vie, peignant ses toiles les plus accomplies, qui sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées du monde. Mais l'histoire de Château-Noir, c'est aussi celle de ces hommes et de ces femmes qui y ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Des artistes majeurs, engagés pour certains dans la résistance et qui ont risqué leur vie pour rester fidèles à leur idéal d'humanisme et de liberté. Ce roman est librement inspiré de la vie qu'ils ont menée à Château-Noir. Le lecteur, curieux des détails historiques, pourra retrouver en fin d'ouvrage une courte biographie de chacun des personnages. Il y a comme une aura de sortilège qui soudain vous libère à Château-Noir. Ceux qui y vivent ne sont pas comme tout le monde. Ils rayonnent d'indépendance. Jacqueline de Romilly, membre de l'Académie française, sur les chemins de Sainte-Victoire. J'ai senti à plusieurs reprises que ce n'était pas moi qui regardais la forêt. J'ai senti, certains jours, que c'était les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Moi, j'étais là, écoutant. André Marchand, peintre de Château-Noir, cité par Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit. Chapitre 1er. Massif de la Sainte-Victoire. Nuit du 26 au 27 juillet 1943.
Halte !
La voix claque dans la pinède comme un coup de feu. L'homme n'a pas le temps de s'enfuir. Deux pas à peine, puis les silhouettes surgissent comme un souffle. Un faisceau de lampes lui brûle les yeux. Une main le saisit au bras, une autre lui arrache sa sacoche. Il sent le métal froid d'un canon se presser contre sa nuque, non pour tirer, mais pour lui signifier qu'il est désormais un prisonnier et qu'il devra parler. Donner des noms, des dates, des lieux.
Tes mains.
Il obéit. Ses poignets sont maintenus derrière son dos. On fouille ses poches avec méthode. Aucun mot inutile. Le geste précis de ceux qui savent ce qu'ils cherchent. Quand on le force à s'agenouiller, il lève les yeux vers la montagne. La Sainte Victoire, lavée par la lune. Sa masse flotte au-dessus des frondaisons, comme dégagée du poids de la roche. Les pins noirs montent vers elle en colonnes irrégulières. Entre les aiguilles, la lumière se dépose par plaques, révélant les cassures du roc, les replis, les pentes que la nuit adoucit. Il a ce réflexe absurde des peintres, continuer à regarder, malgré tout. Observer, peut-être pour la dernière fois, la manière dont l'ombre se fragmente au pied des arbres, celle avec laquelle la lumière qui descend de la lune tombe de biais, laissant aux formes leur part de retrait, leur dignité muette. Il pense que le jour n'aurait pas permis cela. Ici, la lumière d'été écrase, impose. Il s'étonne de chercher encore la beauté. Mais il comprend aussitôt. Ce n'est pas elle qu'il cherche. C'est une manière de résister, d'arracher un dernier éclat de liberté.
Debout ! On le relève.
Plus bas, une voiture attend, dissimulée sous les arbres, moteur déjà en marche. L'odeur d'essence se mêle à celle de la terre encore chaude et des aiguilles de pin écrasées. Voici bientôt un an que la région est tombée aux mains de l'occupant. Commandée par le général Blaskowitz, la première armée allemande était partie de Nantes en direction de Bordeaux, avant de rejoindre les Pyrénées. Au même moment, la 7e armée avançait vers la Provence. 24 heures plus tard, les blindés de la Wehrmacht contrôlaient à la fois